Bonjour, samedi 5 octobre, ravi de vous retrouver pour notre exploration de 7 jours d'actualité. Grâce au reportage de la rédaction, bien sûr, nous partirons cette semaine, par exemple, pour le Qatar et le Mali.
Une semaine d'actualité. Pierre-Édouard Deldic.
Mais revenons un instant sur le premier anniversaire, sinistre anniversaire, celui de l'assassinat de Jamal Khashoggi. Une cérémonie a été organisée mercredi à Istanbul en présence de Jeff Bezos, le propriétaire du Washington Post, auquel collaborait le journaliste saoudien, assassiné, on le sait, au consulat de son propre pays. Correspondance d'Anne Handlauer.
Un moment de non-silence pour Jamal Khashoggi, lui que ses meurtriers ont fait taire. C'est l'intitulé de cette cérémonie organisée à moins de 20 mètres du consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul. Sur la petite scène blanche, les orateurs se succèdent pour rendre hommage aux journalistes. Parmi eux, Agnès Kalama, rapporteur spécial des Nations Unies sur les exécutions extrajudiciaires. Elle a enquêté pendant des mois sur l'affaire et a mis en cause la responsabilité individuelle de hauts responsables saoudiens, y compris du prince héritier Mohammed Ben Salman.
Personne ne devrait s'en sortir ainsi après un tel meurtre, peu importe qui ils sont, aussi haut placés soient-ils, peu importe qu'ils aient porté le coup fatal ou qu'ils aient ordonné ce coup, nous ne renoncerons pas tant que justice n'aura pas été rendue.
Jeff Bezos, le milliardaire américain propriétaire du Washington Post, dans lequel écrivait Jamal Khashoggi, assiste à la cérémonie. À ses côtés, Hatice Cengiz, la fiancée du journaliste.
Jamal réclamait la liberté d'expression et plus de transparence dans son pays. Ce qu'il n'a pas réussi de son vivant, il y parvient dans sa mort. Les yeux du monde entier sont braqués sur le royaume.
À la fin de la cérémonie, les participants inaugurent une pierre à la mémoire du journaliste. On y lit son nom, sa date de naissance et de mort, comme sur une pierre tombale. Les restes de Jamal Khashoggi n'ont toujours pas été retrouvés.
Une semaine d'actualité à retrouver sur votre moteur de recherche préféré, sur le site de la radio www.rfi.fr, l'application RFI 100% radio et à la page Une semaine d'actu de Facebook. Aujourd'hui, nous allons nous attarder en Chine populaire qui a fêté solennellement ses 70 ans, c'est peut-être l'événement de la semaine, avec notre invité Gilles Fontaine qui, avec Eric Scholl, a écrit « Il est midi à Pékin », le monde à l'heure chinoise. C'est un voyage dans le monde où la Chine est au cœur de tout. Bonjour Gilles Fontaine.
Bonjour Pierre, bonjour à toutes et à tous.
C'est une très bonne idée d'avoir écrit ce livre. Vous êtes rédacteur en chef au magazine Challenge, co-auteur donc de ce « Il est midi à Pékin ». Vous imaginez, en gros, qu'il est midi dans le monde?
Voilà, on essaie de raconter une histoire en plusieurs épisodes, en plusieurs scénettes, une quarantaine au total. On a pris le parti, en fait, de raconter l'empreinte de la Chine aujourd'hui à travers des histoires qui peuvent paraître parfois anecdotiques ou plus ou moins importantes. Selon un découpage, on a suivi bêtement, j'allais dire, les fuseaux horaires, et on raconte des histoires dans le domaine politique, économique, culturel, sportif. Et on voit que, effectivement, cette emprise de la Chine aujourd'hui est très réelle.
Dans tous les domaines, c'est ça qui est frappant. Elle est partout dans le monde. Et elle œuvre, entre guillemets, dans tous les domaines, voilà, de l'activité.
Oui, exactement. Et alors ce qui est intéressant, c'est que, bon, pour la petite histoire, avec Eric Scholl, on se connaît depuis très longtemps, on a travaillé dans les mêmes magazines à un moment, et on avait ce projet déjà depuis une dizaine d'années, et bon, il a mis du temps à mûrir, mais finalement, ça nous a permis aussi de nourrir ce bouquin, et surtout de trouver à la fois les bonnes histoires, dans des sujets, dans des domaines assez variés, donc la première base militaire chinoise à Djibouti,
oui,
par exemple,
parler,
le football avec l'Olympique Lyonnais en France, le
vin,
cinéma,
le
vin à Bordeaux. Il y a aussi une petite histoire assez amusante avec et assez surréaliste avec un reality show qui fait fureur en Chine et qui se déroule à Colmar, donc une ville bien de chez nous. Voilà, donc on a essayé de trouver à la fois les bons thèmes, les bons endroits. Je vous avoue qu'on a eu parfois un petit peu de difficulté. Il y a pas mal de fuseaux horaires qui se trouvent au milieu du Pacifique. Et ben même là, sur des petits cailloux, des petits îlots de rien du tout, on a même là aussi réussi à trouver des histoires intéressantes à raconter.
Alors votre magazine Challenge titre sur cet événement, hein, Le Monde à l'heure de Pékin. C'est vous qui avez fait le dossier peut-être, non?
Alors non, parce que c'est un dossier en fait où dans lequel on raconte. Alors il y a bien sûr notre correspondant à Pékin, hein, Pierre Thyssen, mais il se trouve que un autre jeune journaliste, je me permets de le citer parce qu'il a fait un boulot remarquable, Antoine Isambard, lui s'est plus intéressé en fait à la façon dont la Chine est en train de tisser son réseau d'amitié politique, économique en France, de façon un peu souterraine. Et donc, on a rassemblé un petit peu tout ça. On a appelé ça dans le temps les bonnes feuilles, mais on a rassemblé un petit peu tout ce travail dans ce dossier. Ça couvre une douzaine de pages, et je pense que ça résume assez bien la situation, la position, la puissance de la Chine au moment où, vous l'avez dit, elle fête son 70e anniversaire.
Alors justement, Gilles Fontaine, partons pour Pékin, c'est le moment. Mardi, pour revenir sur l'impressionnant défilé qui marquait officiellement donc le 70e anniversaire de la République populaire de Chine. Reportage de Stéphane Lagarde.
Ce n'est plus une armée, c'est un train en marche. Voilà des semaines que militaires et civils préparent en Chine cette parade, tout jusque dans la captation des bruits de bottes, a été réglée dans le moindre détail. 1949-2019, dimanche chiffre rouge et or sur la place Tiananmen, rappelle la continuité d'un régime qui, au travers de ses festivités, auto-célèbre sa puissance. C'est d'ailleurs en veste Col Mao que Xi Jinping fait son apparition au balcon de la Porte du Ciel, la même où Mao Zedong avait proclamé la République de Chine populaire il y a 70 ans. Aucune force ne peut ébranler les fondations de cette grande nation et nous empêcher d'aller de l'avant, martèle alors le secrétaire général du Parti communiste chinois et chef des armées. 10 minutes de discours, mais un long tour dans la limousine drapeau rouge de Mao remise au goût du jour pour saluer les soldats et les soldates. Garde à vous. Bonjour camarades, bonjour président, et ainsi pour tous les corps d'armée. Puis ce sont les dernières technologies de la défense chinoise qui sont présentées, missiles balistiques hypersoniques, drones furtifs ressemblant à d'immenses poissons de mer, puis les chars de la parade civile s'avancent, présentant les grandes inventions de la Chine devant des tribunes sélectionnées sur le volet, qui agitent frénétiquement le drapeau rouge, façon Pyongyang.
Je pense que vous avez vu la cérémonie ou des images, Gilles Fontaine.
Oui,
très impressionnante.
Absolument impressionnant. C'était un déploiement, une démonstration, enfin un déploiement de matériel, d'hommes, une démonstration de force. Alors vous me direz, on n'est pas très bien placé, nous Français, pour critiquer ce genre de démonstration, puisque on s'auto-célèbre de ce côté-là une fois par an en été. Mais il y a quelque chose, une dimension supplémentaire, enfin plusieurs dimensions à mon avis qu'on peut ajouter à cela. Il y a une dimension technologique que je trouve aussi absolument fascinante, parce que dans tout ce qu'on nous a montré, il y a aussi des choses absolument d'un point de vue technologique, notamment tout ce qui est drone, très 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 impressionnant et spectaculaire. Et puis il y a évidemment Hong Kong aussi, hein, puisque le même jour, au même moment,
on va en parler tout à l'heure,
des affrontements se poursuivaient dans les rues de Hong Kong, de plus en plus violents, et là aussi des peuples et des façons de voir qui s'affrontent quotidiennement.
Alors nous avons une question d'Emmanuel Alexandre qui nous écoute à Conakry en Guinée. 15 000, il écrit ceci. 15 000 soldats, des centaines de chars, missiles et avions de combat. Le régime communiste a organisé l'un des plus gigantesques défilés jamais vus à Pékin. Est-ce une stratégie pour dissuader les manifestations de Hong Kong ou une démonstration de force pour faire peur aux autres puissances?
Je pense que le message, il est plus tourné vers l'étranger, notamment vers les États-Unis, très présents également dans la région, hein, au Japon, en Corée du Sud, en mer de Chine. Il y a déjà eu plusieurs incidents aussi militaires, enfin en tout cas d'avions américains qui ont été interceptés par la chasse chinoise. Il y a des choses un petit peu bizarres qui se sont produites aussi au large de Tokyo, dans la baie de Tokyo, et en mer de Chine où des bateaux, des navires américains ont mystérieusement, militaires américains ont mystérieusement perdu tout contrôle et se sont échoués, provoquant malheureusement des morts de marins et puis des pollutions assez importantes. On soupçonne fortement les Chinois d'avoir réussi à hacker ces matériels militaires américains. On voit bien que la confrontation grandit hein, dans la région au fur et à mesure que la Chine elle-même prend de l'importance, essaye d'étendre de toute façon son influence déjà dans sa zone d'influence directe. Quand on parle de ces, on aura peut-être l'occasion de l'évoquer, mais les fameuses nouvelles routes de la soie qui est un projet déployé depuis l'arrivée de Xi Jinping au pouvoir, qui est un projet d'aménagement d'infrastructures, notamment de transport. On a l'impression que les Chinois finalement peuvent faire cette démonstration de force militaire, mais la première démonstration de force, elle est économique.
Gilles Lefontaine, dans votre magazine, il est rappelé que ce pays du milliard entre guillemets, dont 90% de la population vivait encore en 1980 avec moins de $2 par jour, est devenu une puissance redoutée. 1980, c'était hier.
Absolument.
Ça s'est fait très vite.
Entre-temps, il y a eu le fameux appel de Deng Xiaoping, hein, enrichissez-vous, une approche très très pragmatique, très très chinoise de la chose où en fait tout se fait par empirisme, on apprend. Joseph Stiglitz avait été invité hein, dans les années 80, il le raconte très bien, pour donner des grandes leçons, des grandes masterclass au cadre du Parti communiste chinois et raconter le capitalisme. Déjà dans le but à l'époque, d'apprendre. Enfin, et les Chinois l'ont fait un petit peu dans tous les compartiments de jeu. On a longtemps considéré la Chine comme la plus grande usine du monde. Aujourd'hui, la Chine, c'est toujours la plus grande usine du monde, mais c'est aussi un des plus gros innovateurs de la planète.
Amam Moussa, qui lui nous écoute au Niger, et là on rejoint directement votre livre, Gilles Fontaine, nous écrit ceci. La Chine est aujourd'hui parmi les grands pollueurs, celle qui fait le plus d'efforts en matière d'émissions carbone, et malgré cela, son économie reste toujours florissante. Pourquoi est-ce qu'elle s'en sort mieux que les autres ? Se demande-t-il.
Alors, je pense que c'est les qualités d'une dictature éclairée, dirons-nous, quand les autorités chinoises décident que, de limiter la circulation automobile dans ces villes, on demande aux gens de ne plus prendre leur voiture le jour des pics de pollution et on s'intéresse pas au numéro de plaque impair ou pair, c'est tout le monde garde sa voiture au garage, on surtaxe les voitures et pas simplement les voitures les plus polluantes, mais toutes les voitures, on privilégie et c'est un effort national, on privilégie l'électrique et les sources alternatives. C'est vrai qu'on prend le problème à la racine, à la base.
Et une des étapes de votre livre, il est midi à Pékin, c'est la mer de plastique. Là, on est en plein Pacifique parce qu'effectivement, bon, même si la Chine fait des efforts, elle pollue aussi. Hein.
La Chine a longtemps été le réceptacle, faut pas l'oublier non plus, de tout nos déchets, c'est-à-dire que
en plus,
on nous a quand même, et d'ailleurs c'était pas qu'en Europe, mais certaines villes américaines sont confrontées à ce problème-là, c'est-à-dire que quand on collectait vos conteneurs de bouteilles en plastique et autres, tout ça partait dans des gros conteneurs qu'on mettait sur des bateaux et qu'on envoyait en Chine, et la Chine s'occupait de recycler nos déchets, y compris le papier d'ailleurs. Tout ça s'est arrêté très brutalement en 2017, puisque Pékin a décidé d'arrêter et d'interdire les importations de déchets sur son territoire.
Comme d'autres pays d'Asie d'ailleurs ces derniers temps.
Comme d'autres pays d'Asie. Mmh. Donc on peut après imaginer ce qu'on a fait de ces déchets qui ont dû flotter effectivement sur des cargos pendant quelques mois avant qu'on les balance à la mer.
Sept jours dans le monde.
Et partons maintenant pour les États-Unis, Gilles, où Donald Trump commence à sentir les effets de la procédure de destitution lancée par les démocrates, baisse dans les sondages et critique, y compris dans son propre camp. Du coup, le président a tendance à perdre ses nerfs en ce moment. Cela a été le cas mercredi quand il a reçu son homologue finlandais, correspondance d'Anne Corpet.
Un président américain qui perd ses nerfs, se lâche et vitupère, alors qu'un chef d'État étranger est assis à ses côtés. La scène a duré 17 minutes. Donald Trump a d'abord concentré ses attaques sur Adam Schiff, chargé de l'enquête sur la destitution.
Il devrait démissionner honteusement et franchement, on devrait l'accuser de trahison. C'est un type sournois et malhonnête.
Il s'en est ensuite pris au lanceur d'alerte.
Le lanceur d'alerte a écrit une conversation vicieuse. Soit il a complètement inventé, soit la personne qui lui a donné des informations était malhonnête. Cette personne est un espion, selon moi.
Avant de cracher son venin sur la presse.
Les médias sont corrompus dans ce pays, ils sont vraiment l'ennemi du peuple.
Un peu plus tard, rebelote, cette fois à l'occasion d'une conférence de presse commune avec son homologue finlandais. Le président américain qualifie la procédure de destitution de coup monté et sur son adversaire démocrate, Joe Biden, il lâche.
Biden et son fils sont des escrocs de sang-froid.
Lorsqu'un journaliste tente de le relancer sur ce qu'il a demandé au président ukrainien à propos de son rival, Donald Trump s'énerve.
C'est à moi que vous parlez ?
Et esquive.
Nous avons le président de Finlande. Posez-lui une question. Vous m'entendez ? Posez-lui une question.
Une nouvelle fois, le président américain conclut son intervention en dénonçant les médias corrompus.
Les mondiaux d'athlétisme organisés au Qatar qui viennent de s'achever et la Coupe du Monde de football dans 3 ans avec des stades climatisés soulèvent les critiques des écologistes sur l'impact sur le plan de l'environnement de tels événements dans un pays désertique et posent à nouveau aussi la question des conditions de travail des ouvriers sur place. Nicolas Falaise.
Plus de 30 degrés et 70% d'humidité à Doha ces derniers jours pour les mondiaux d'athlétisme, mais le thermomètre affiche parfois 45 degrés au Qatar, un pays où la majorité des 2 millions d'habitants sont des travailleurs asiatiques, employés notamment sur les chantiers de construction, comme le rappelle Iba Zayadine de l'organisation de défense des droits humains Human Rights Watch.
Nous avons vu des marathoniens s'effondrer en raison des conditions extrêmes de chaleur et d'humidité. Cela devrait nous rappeler que des travailleurs étrangers s'activent 12 heures par jour dans les mêmes conditions et encore pire. Et la seule protection rudimentaire dont ils bénéficient, c'est une interdiction de travailler l'été entre 11h30 le matin et 15h l'après-midi. Mais cela ne concerne que les mois les plus chauds de l'année.
De son côté, le journal britannique The Guardian publie une étude scientifique selon laquelle la chaleur tue des centaines de travailleurs étrangers chaque année sur les chantiers de construction au Qatar, mais pour l'émirat, il s'agit officiellement de mort naturelle.
Gilles Fontaine, partons pour Hong Kong maintenant avant de vous retrouver. Le jour même où Pékin fêtait en grande pompe, donc on l'a entendu, son 70e anniversaire, les étudiants manifestaient eux à Hong Kong. L'un d'entre eux a été blessé par une balle réelle, ce qui a tendu encore davantage le climat. Correspondance mercredi de Florence de Changi.
Le rendez-vous a été donné sur le terrain de sport de Tsuen Wan, une de ces villes nouvelles des nouveaux territoires de Hong Kong. Les participants tiennent des panneaux « Ne tirez pas sur nos enfants ». L'artiste de théâtre, Bang Ki, explique sa participation à ce rassemblement.
Hier ici, un jeune a été touché par une balle de police à 3 cm de son cœur, mais tellement près, ça l'a presque tué. Et à 16h, aujourd'hui, la police, pendant sa conférence de presse, a dit que ce qu'elle avait fait était correct, tirer sur un jeune. C'est pour ça que nous sommes tous ici. C'est ici qu'est le pouvoir.
Amanda, elle, est institutrice dans une école voisine et se sent concernée, comme tous les Hongkongais.
Je considère que ce qui s'est passé est totalement inacceptable. La police et le gouvernement doivent assumer la responsabilité de cet accident qui viole toutes les lois et toutes les règles de Hong Kong.
D'autres rassemblements spontanés ont eu lieu ailleurs à Hong Kong, mais comme à Tsuen Wan, il y a ensuite eu des confrontations avec la police. Les Hongkongais sont de plus en plus nombreux à réclamer une dissolution totale de leurs forces de police dans laquelle ils n'ont plus aucune confiance.
Notez aussi dans l'actualité internationale que l'Irak a vécu jeudi sa journée la plus sanglante depuis le début mardi de manifestations au cours desquelles plus de 30 personnes ont été tuées avec des affrontements d'une violence inédite entre protestataires et forces de sécurité. Je rappelle que parti de Bagdad, le mouvement réclamant des emplois pour la jeunesse et le départ des dirigeants jugés corrompus a désormais gagné la quasi-totalité du sud du pays. Suite d'une semaine d'actualité, nous sommes toujours en compagnie de Gilles Fontaine qui a écrit avec Eric Scholl « Il est midi à Pékin, le monde à l'heure chinoise ». Un mot sur Hong Kong, sur cette autre Chine.
Oui, on se demande un petit peu à quel jeu joue Pékin en fait sur ce dossier. Pour le moment, il s'agit de manifestations très violentes, mais on parle bien des Hongkongais contre la police hongkongaise, de manifestations contre l'exécutif de Hong Kong. Visiblement, la patronne de l'exécutif a été à deux doigts de démissionner, de partir, et Pékin lui a demandé, enfin peut-être plus que demandé d'ailleurs, de rester en place.
Et de retirer son texte sur l'immigration.
Et de toute façon, son texte a été retiré. Aujourd'hui, la situation dégénère. Personne ne sait exactement la tournure que ça peut prendre, comment ça peut se terminer. On a l'impression que dans un camp comme dans l'autre, on campe sur ses positions. Et la situation à Hong Kong, j'en parlais encore avec plusieurs résidents sur place, économiquement se dégrade rapidement. C'est-à-dire que les spécialistes du tourisme, pour le business en général à Hong Kong, la situation est extrêmement préoccupante. Le nombre de visiteurs ces derniers mois est divisé par deux par rapport au trafic normal dans la ville. Donc oui, c'est absolument préoccupant. Et puis quand on parle de perte de vie humaine, on approche le drame absolu.
Donald Trump, très en colère, qui semble perdre ses nerfs en ce moment, nous permet de rappeler qu'il y a une guerre commerciale évidente et forte entre les États-Unis et la Chine. Guerre commerciale qui ne fait pas que des malheureux en Chine, elle fait aussi des victimes, entre guillemets, aux États-Unis.
Bien sûr. Alors, le discours américain, quand on vous parlait de ces problématiques, avec notamment en Californie, dans la Silicon Valley, les managers, les dirigeants d'entreprises, ne sont pas aussi. Et pourtant, on est dans un univers en Californie où on n'est pas forcément très propre
non,
Trump,
pas vraiment.
Et dans les nouvelles technologies, dans le secteur des nouvelles technologies, encore moins. Et pourtant, ces gens disent que dans tout ce qu'a fait Trump vis-à-vis de la Chine depuis le début, il n'y a pas que des mauvaises choses et que de toute façon, ce bras de fer est absolument inévitable si on veut à un moment ou à un autre prendre la main. Là, le problème, c'est effectivement les effets boomerang, voire les dommages collatéraux, les relations, effectivement, il y a quelques ambiguïtés, puisque prenons une entreprise comme Apple, la Chine pour Apple, c'est à la fois son plus gros fournisseur de composants, c'est là qu'elle a ses usines, et puis c'est aussi un immense marché d'un milliard de consommateurs, et aujourd'hui Apple a été blacklisté complètement auprès des consommateurs chinois. Il y a une grosse campagne de boycott qui a été engagée, donc on voit bien que tout n'est pas blanc-noir, c'est une guerre qui peut-être permettra de rééquilibrer un petit peu les rapports de force. Mais en tout cas, c'est compliqué de savoir qui sont précisément les vainqueurs et les perdants.
Il y a en outre une guerre commerciale qui concerne l'Europe, cette fois, avec Airbus et la guerre entre Airbus et Boeing. Est-ce que la Chine ne va pas faire sortir grand bénéficiaire de cette lutte? Parce qu'il faut rappeler que la Chine est aussi un pays émergent en matière d'aéronautique.
Voilà, j'ai eu l'occasion de voyager assez souvent dans ce pays, notamment rencontrer des sous-traitants d'Airbus il y a quelques années. Aujourd'hui, ces sous-traitants d'Airbus sont devenus pratiquement partie prenante du nouvel avion moyen courrier qui est en train d'être mis au point par les Chinois. C'est sûr que c'est un boulevard pour la commercialisation de ce jet chinois et si effectivement la situation perdure entre les États-Unis et l'Europe.
Une semaine d'actualité.
Et l'actualité en France, cette fois, Gilles Fontaine, où la Chine a un rôle important, de plus en plus, une présence de plus en plus importante, on le verra dans quelques minutes. Avec d'abord l'hommage national à Jacques Chirac aux Invalides, lundi, suivi d'une messe en l'église Saint-Sulpice. Reportage de Pierre-Olivier aux Invalides.
C'est au son lent et solennel des tambours que le cercueil de Jacques Chirac entre dans la cour d'honneur des Invalides. Recouvert du drapeau bleu-blanc-rouge, il est porté par ses anciens gardes du corps. Partout autour, des dizaines de militaires au garde à vous. Et face au cercueil, Emmanuel Macron seul se recueille lors d'une minute de silence. Un peu plus tôt dans la matinée, une messe était célébrée en l'église Saint-Louis des Invalides en petit comité avec quelques 200 invités. Des amis proches de Jacques Chirac comme Alain Juppé, François Baroin ou encore l'acteur Vincent Lindon. Des membres de sa famille aussi bien sûr, comme son épouse Bernadette Chirac, sa fille Claude ou encore son petit-fils de 23 ans Martin. À la fin, des honneurs militaires sous un beau rayon de soleil, une marche funèbre jouée par l'orchestre de la garde républicaine retentit pendant que le cercueil de Jacques Chirac quitte la majestueuse cour d'un blanc immaculé des Invalides.
Autre chose, les habitants de Rouen sont toujours inquiets. Une semaine après l'incendie d'une usine classée Seveso, l'usine Lubrizol, qui a détruit 5000 tonnes de produits chimiques, plusieurs centaines de produits chimiques, malgré les propos rassurants des autorités locales et nationales, ils ont manifesté. Reportage de Pierre-Olivier.
On veut la vérité, scandent des milliers de manifestants pour la plupart des habitants de Rouen et de sa banlieue. Mais au-delà du simple cas de l'usine Lubrizol, c'est avant tout la protection de l'environnement qui rassemble beaucoup de participants. Ce père de famille est venu avec ses deux jeunes enfants.
J'ai pris mes enfants pour leur montrer que l'écologie, c'est leur avenir. Malheureusement, on leur a laissé une planète dévorée par le capitalisme. Et voilà pourquoi je suis venu ici avec mes enfants.
Et justement, Raphaël, 8 ans, se dit inquiet après l'incendie de l'usine Lubrizol.
Parce que la fumée peut venir, et ça peut nous tuer, enfin ça peut nous rendre malades.
D'autres militants dans le cortège évoquent, eux, les dérives du capitalisme et font un lien avec l'usine Lubrizol.
On est dans un exemple frappant de lutte de classe, voyez-vous. Lubrizol n'a pas été installé à Bois-Guillaume, c'est une commune bourgeoise. Le choix est fait. Quand on voit un peu la carte des entreprises dangereuses, elles sont toujours situées dans les quartiers populaires.
En plus de demander la vérité sur l'incendie, cette manifestation avait aussi des allures de marche pacifique pour le climat.
Des milliers de policiers ont défilé mercredi à Paris pour une marche de la colère, une mobilisation inédite depuis près de 20 ans, sur fond de profond malaise de l'institution et de hausse des suicides aussi. Reportage cette fois de Simon Rosé.
Les syndicats anticipaient 15 000 personnes, Paris tenu, de l'adjoint de sécurité au commissaire. Les forces de l'ordre sont dans la rue, marre du manque de reconnaissance. Ce policier travaille à Marseille.
J'ai toujours la foi, beaucoup de collègues commencent à la perdre. Hein. L'évolution dans la police, c'est ça. Qu'on n'est pas soutenu par une partie de la population, qu'on n'est pas soutenu par une partie de la classe politique, quand par moment on ne se sent pas soutenu par notre RHU, notre ministère, on a du mal. Quand vous voyez le nombre de collègues qui mettent fin à leur jour, je l'ai connu parce que j'ai un ami qui a mis face sur il y a 2 ans. C'est très difficile.
52 policiers se sont suicidés cette année. Un faux cercueil leur rend hommage recouvert d'un drapeau tricolore. Cette policière parisienne fait partie de ceux qui le portent.
Avoir une famille, c'est délicat. On est rappelé à n'importe quelle heure. On doit toujours être présent. On a des heures supplémentaires à gogo qu'on n'arrive pas à poser. Voilà, et donc la fatigue.
Beaucoup attendent un geste du gouvernement, même si le malaise est plus profond. Grégory Hugues, du syndicat Unité SGP Police.
On va se mettre autour d'une table, non pas pour nous dire « nous avons décidé que », mais pour nous dire « nous allons décider ensemble ce que sera la police de demain ». Parce que demain, je serai encore policier, ils seront plus ministres.
Et déjà, le gouvernement est prévenu, cette marche de la colère sera reconduite s'il le faut.
Et je vous rappelle que 4 fonctionnaires de la préfecture de police de Paris, dont une femme, ont été tués jeudi à coups de couteau par un employé qui a été ensuite abattu par les forces de l'ordre dans une attaque inédite au mobile inconnu pour le moment. Gilles Fontaine, on va reparler de la Chine dans un instant, mais revenons pour conclure cette séquence française sur les propos d'Éric Zemmour le week-end dernier. Zemmour, penseur ou provocateur? J'ai ma petite idée, mais je la garde pour moi, naturellement. Zemmour qui va une nouvelle fois avoir affaire à la justice. Pourquoi? La réponse d'Olivier Sherman.
L'enquête a été ouverte pour injure publique et provocation publique à la discrimination, la haine ou la violence. Une enquête ouverte par le parquet de Paris après la violente charge d'Éric Zemmour contre l'islam et les immigrés. Son discours, intégralement retransmis en direct à la télévision, a été prononcé dans le cadre de la Convention de la droite organisée à Paris par les proches de l'ancienne députée d'extrême droite Marion Maréchal-Le Pen. « Tous nos problèmes, aggravés par l'immigration, sont aggravés par l'islam », a notamment affirmé Éric Zemmour. Celui qui a été condamné très récemment pour provocation à la haine religieuse a également cité l'écrivain Renaud Camus, théoricien du grand remplacement, une thèse complotiste et raciste selon laquelle la population blanche et chrétienne serait remplacée par une population immigrée musulmane. Le CSA, le gendarme de l'audiovisuel, a comptabilisé 650 signalements dans ce dossier. Les déclarations d'Éric Zemmour ont suscité un tollé jusqu'au sein du gouvernement. Le Premier ministre Édouard Philippe a condamné des discours nauséabonds et profondément contraires à l'idée que nous faisons de la France et de la République.
Allez Gilles Fontaine, respirons un peu. Je rappelle que vous avez écrit avec Éric Scholl, il est midi à Pékin, Le Monde à l'heure chinoise. Alors, Bordeaux, Colmar, Lyon, ce sont trois des étapes de votre livre qui montrent que la Chine est présente aussi en France et il y a d'autres exemples.
Oui, il y a beaucoup d'exemples, mais simplement, bon, voilà, on n'avait peut-être pas assez de place. Ce sera pour un prochain, pour un volume 2, pour une suite, effectivement. Mais on a retenu ces deux ou trois exemples parce que, d'abord, ils étaient assez emblématiques de la situation, de ce qui est en train de se produire, effectivement.
Oui, parce que ce sont des domaines totalement différents. Bordeaux, c'est le vin. Et quel vin? Colmar, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est la télévision, c'est les séries télévisées. Et Lyon, c'est le foot.
Lyon, c'est le foot parce que Jean-Michel Aulas, le patron de l'Olympique lyonnais, est à la recherche. Vous savez, un club de foot, c'est devenu une vraie entreprise, presque une multinationale. Il faut trouver des produits dérivés. Puis c'est l'Olympique lyonnais, comme d'autres grands clubs européens, est devenu une marque. Et les Chinois s'intéressent au football parce que on peut imaginer que dans les prochaines décennies, enfin dans les 20 prochaines années, une Coupe du Monde de football soit organisée en Chine. Et là encore, on se fait ça de manière empirique. On rachète des clubs de foot. C'est ce qui s'est passé avec les Chinois en France, puisqu'ils ont racheté notamment le club d'Auxerre, qui malheureusement ne brille toujours pas, reste dans les eaux un peu intermédiaires de deuxième division. Mais l'idée, c'est toujours encore une fois d'apprendre. Et ce qui intéresse les Chinois, c'est surtout le centre d'entraînement, le centre de formation du club d'Auxerre, qui est très réputé de façon internationale. Pareil pour Lyon, qui a une très très bonne réputation de ce côté-là, qui a la réputation de former d'excellents joueurs. Et donc des partenariats se sont noués entre l'Olympique lyonnais et plusieurs clubs de foot en Chine. Des échanges réguliers se produisent. Des cadres de l'Olympique lyonnais se sont installés là-bas pour apprendre certainement, mais aussi transmettre leur savoir, et aussi du côté commercial, comment est-ce qu'on monétise une équipe de football. L'Olympique lyonnais aussi dispose de jeunes recrues chinoises. L'idée étant qu'un jour, peut-être un Chinois fasse partie de l'équipe première et que des téléspectateurs chinois, fans de foot, se mettent à regarder les matchs de l'Olympique lyonnais à la télé.
Ce qui est assez fascinant, Gilles Fontaine, c'est de voir que cette Chine a le sens de la prévision. Quand même, les moyens sont souvent empiriques, mais il y a une projection dans le futur que souvent les démocraties occidentales, les Européens par exemple, n'ont pas.
Oui,
une manière, une façon de se projeter, d'imaginer ce que sera la Chine dans 10 ans. Vous imaginez que dans 10 ans, d'ailleurs, elle sera sur la Lune. Mais c'est assez fascinant.
C'est le petit exercice auquel on s'est livré en clôture de cet ouvrage, où on a essayé de se projeter, c'est pour se faire plaisir un petit peu aussi.
Mais il est possible que dans 10 ans, la Chine soit sur la Lune. Hein.
Il est possible. En tout cas, c'est un des objectifs que s'est fixé Pékin. Effectivement, c'est d'aller sur la Lune, mais aussi d'aller sur Mars. Et puis, plein d'autres objectifs. Pourquoi pas organiser effectivement une Coupe du Monde de football, produire les meilleurs vins au monde, c'est aussi quelque chose qui est tout à fait envisageable. On consacrait effectivement une partie du livre aussi sur le bordelais. Jack Ma, qui est le fondateur d'Alibaba, qui est un immense site de e-commerce, l'équivalent chinois d'Amazon, a racheté là-bas plusieurs vignobles. Ils s'y sentent très très bien. Il y avait une petite, alors je sais pas si j'ai le temps de le citer, mais il y avait une petite citation quand il a récemment assisté à une petite soirée là-bas avec des célébrités, et puis il a dit: vous ne produisez pas du vin, vous produisez du bonheur. Et si vous buvez, ensuite il a poursuivi en disant: si vous buvez trop de mauvais vin, cela abîmera votre foi. Si vous buvez trop de bon vin, cela abîmera votre cerveau. Si vous ne buvez pas de vin, cela abîmera votre cœur. Et je trouvais que la façon dont ce Jack Ma se réapproprie finalement notre culture nationale et arrive aussi à en faire de quelque chose de très beau, très poétique, moi, c'est aussi l'autre facette de la Chine qu'on aimerait voir plus souvent.
Écrire par courriel semaine.actu@rfi.fr.
Notre adresse électronique, continuez bien sûr à nous écrire. Un salut à quelques auditeurs qui nous écoutent sur le continent africain. Un salut par exemple à Issouf qui nous suit à Kodougou au Burkina Faso, à Césaire, à Lomé, à Sanogo qui nous écoute à Abidjan, à Cocody précisément. Bonjour à Gracien à Bangui, Delima à Conakry et à Goni Gonané et Ferdinand à N'Djamena.
Une semaine d'actualité.
L'Afrique maintenant, donc Gilles Fontaine, on va évidemment parler de la Chine en Afrique avec quelques exemples qui figurent dans votre livre. Mais pour l'instant, nous allons porter notre attention sur la région du Sahel, essentiellement au Mali, après la mort d'au moins 25 soldats dimanche et lundi dans des combats contre des djihadistes à Boulkessi, près de la frontière avec le Burkina Faso, correspondance de Serge Daniel.
Les intenses combats qui se sont étalés sur 2 jours dans la localité de Boulkessi n'ont pas encore livré tous leurs secrets, surtout que pour le moment, c'est le gouvernement malien seul qui communique officiellement. Selon son porte-parole, le bataillon malien sous commandement de la force conjointe G5 a perdu 25 hommes. Bilan provisoire. Une 60aine d'autres soldats maliens sont pour le moment portés disparus. Et l'armée a essuyé de lourdes pertes en matériel. Côté présumé djihadiste, 15 morts toujours selon le même porte-parole, ministre de la Communication Yaya Sangaré, qui ajoute que l'armée régulière est arrivée ce mardi à reprendre et conserver ses positions. Ce détail est important et il confirme que les assaillants ont bel et bien un moment pris contrôle des positions des forces sous commandement G5. Ensuite, pour faire face à l'ennemi, partenaires du Mali sur le terrain, c'est-à-dire français de l'opération Barkhane et mission de l'ONU, sont militairement intervenus à Boulkessi. Là, nous avons une double confirmation de la témérité de l'adversaire qui, selon l'expression d'un observateur, a été un moment lors des combats un gros caillou dans la chaussure des forces en face.
Les femmes des militaires qui combattent dans la région sont inquiètes, on les comprend. Elles ont exprimé cette inquiétude mercredi dans la rue. Écoutons-les.
C'est à cause de la tristesse que nous sommes sortis. Nous avons appris que les militaires qui sont à Boulkessi ont été attaqués alors qu'il n'y a que des bérets rouges. 25 morts et plus de 60 disparus. On veut des explications de la part des autorités. Nous demandons au président de la République de nous donner des explications, car nos maris n'ont jamais eu peur de combattre. Mais dans l'armée, chacun doit remplir son rôle. Dans la situation actuelle, les bérets rouges devraient être appuyés par l'armée de l'air. Ce n'est pas seulement eux au sol qui peuvent combattre les terroristes. C'est un travail de complémentarité. Si l'armée de l'air n'a pas bougé, c'est difficile pour les bérets rouges d'accomplir leur mission. Nous voulons savoir où sont partis nos maris et nos enfants. Que l'État nous donne des explications. Nous voulons simplement avoir des informations sur la situation afin que nous puissions être en paix.
Et jeudi, un deuil de 3 jours a été décrété au Mali. Alors, qui pourrait être derrière cette attaque de Boulkessi ? Premiers éléments de réponse avec Coralie Pierret.
Très rapidement, quelques heures seulement après l'attaque, la force conjointe G5 Sahel accuse Ansarul Islam. C'est ce groupe terroriste burkinabé qui, selon un communiqué, aurait attaqué les camps militaires maliens de Mondoro et de Boulkessi. À Boulkessi précisément, localité située à la frontière avec le Burkina Faso, c'est loin d'être la première attaque djihadiste. Le 15 mars, le chef de ce village était enlevé par des hommes venus du pays voisin, selon le gouverneur de la région en poste au moment de ce rapt. C'est la zone de Jafar Diko, le chef d'Ansarul Islam. Il y prêche régulièrement, indique un ressortissant de Boulkessi. Toujours dans ce village, dès mars 2017, au moment de sa création, le GSIM, une coalition de groupes djihadistes, y revendiquait ses deux premières attaques contre les FAMA. Plus largement, dans cette zone frontalière, on compte également l'État islamique au Grand Sahara. Selon une note des renseignements burkinabais, le IJS, branche d'Abdoul Hakim, a planifié et exécuté l'attaque le 19 août dernier à Koutougou, où 24 soldats burkinabais avaient perdu la vie. Toujours selon cette note, après l'assaut, les assaillants s'étaient dispersés, certains jusqu'à Boulkessi.
À traversant la frontière, Gilles Fontaine, avant de reparler de la Chine, et rendons-nous au Burkina Faso, où face aux récentes attaques dans la commune de Zimtaga, dans la région du centre-nord, et aux déplacements massifs de populations qui ont suivi, le gouvernement a annoncé des mesures humanitaires. Reportage mercredi de Yaya Boudani, notre correspondant.
Aucun chiffre officiel n'est disponible pour le moment sur le nombre de victimes des récentes attaques à Zimtanga. La situation est très difficile sur place, reconnaît Siméon Savadogo, ministre de l'administration du territoire. Le président Rokma Christian Kabore demande aux forces de défense et de sécurité de prendre des mesures nécessaires afin de permettre aux populations de regagner leur village, selon le ministre de l'administration du territoire.
Il y a d'abord la psychose qui s'est installée au niveau des populations. À tout moment, même dans les champs, quand on crie qu'il y a des choses qui arrivent, donc tout le village se vide et tous les marchés se vident.
Environ 20 000 personnes ont fui les attaques pour se réfugier à Kongoussi, à une centaine de kilomètres de la capitale. Après le soutien des habitants de la ville, l'aide humanitaire se met tout doucement en place. Marie-Laurence Ilboudo-Marchal, ministre de la Solidarité nationale et de l'Action humanitaire.
Nous avons des problèmes d'abri. Vous savez que les écoles ont repris, donc nous ne pouvons pas ouvrir les écoles à ces personnes. Mais nous avons demandé à nos partenaires de trouver des abris pour répondre. Mais en attendant, nous avons des abris de fortune et surtout, nous avons des bâches que nous avons convoyées pour répondre urgemment à un problème d'abri.
Des tonnes de vivres composées d'huile, de savon, des boîtes de conserve et des couvertures ont été déjà acheminées sur place, selon le gouvernement.
Et j'ajoute dans l'actualité africaine la fin du grand dialogue national au Cameroun, destiné, je vous le rappelle, en principe à ramener la paix dans les deux régions anglophones du sud-ouest et du nord-ouest, avec la libération de 333 détenus par Paul Biya. On vous en parle dans nos journaux, comme on vous parle de toute l'actualité africaine, 24 heures sur 24, sur notre antenne. Suite et fin de notre émission avec Gilles Fontaine. Alors évidemment, dans ce voyage passionnant que vous faites dans ce livre, Il est midi à Pékin, il y a des étapes africaines, et notamment à Djibouti. Que s'est-il passé le 1er août 2017 pour que, écriviez-vous, la France découvre de son côté que son influence sur le territoire africain n'est plus qu'elle était?
Oui, parce qu'on a l'impression à Djibouti, nous Français, d'être un petit peu chez nous. On parle de cette fameuse base militaire qui permet effectivement aux forces françaises de se projeter sur des terrains opérationnels un petit peu éloignés. Eh bien, la Chine elle-même a inauguré ce jour-là sa première base militaire à l'étranger. Alors il y en a d'autres, hein. Depuis il y a aussi le Pakistan maintenant, mais tout ça part aussi d'une évolution dans la façon dont le régime de Pékin se projette sur le monde, à savoir que depuis 2015, la Chine s'autorise à mener des opérations antiterroristes à l'étranger, un petit peu sur le modèle américain d'ailleurs, hein. En tout cas le terrorisme sert d'argument d'appoint pour pouvoir mener éventuellement des opérations en dehors de son sol. Il faut savoir que ce territoire de Djibouti, mais je pense que les auditeurs de RFI le savent mieux que d'autres, c'est une zone extrêmement importante pour toutes les grandes nations de ce globe, parce que ça permet de contrôler, enfin en tout cas de garder un œil sur un axe de passage extrêmement important, en termes de marchandises, de matières premières, etc. Pour la Chine, ça lui permet aussi de pouvoir intervenir assez rapidement sur et de garder un œil sur des pays où elle commence à avoir des intérêts économiques extrêmement importants également.
Vous nous proposez, Gilles, aussi une étape au Zimbabwe, et là c'est beaucoup moins connu. Pour parler de l'influence, du rôle qu'a la Chine dans la surveillance finalement de la population.
Voilà, alors la Chine effectivement, on est plus sur le plan technologique et sur des technologies sur lesquelles la Chine a pris une avance assez décisive, qui est la reconnaissance faciale.
Qui pose des questions en matière de liberté publique.
De liberté publique. Alors, en Europe, en tout cas, c'est des thèmes qui sont extrêmement débattus et sur lesquels les autorités, je pense, de façon tout à fait normale, s'interrogent énormément, à savoir est-ce qu'on peut utiliser partout dans la rue, à exposer le public à ce genre de technologie qui permet de reconnaître à distance qui se promène dans tel quartier, à tel moment, etc. Les Chinois, eux, ont besoin de, comme toutes les entreprises, comme tous les spécialistes de ces domaines-là, ont besoin. En fait, il faut des bases de données. Voilà, il faut, comme pour la voix, comme quand on travaille sur la synthèse vocale ou la reconnaissance vocale, et ben pour la reconnaissance des visages, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il faut, plus on aura de données, et mieux ça fonctionnera. Donc, les Chinois ont mené beaucoup d'expériences là-dessus. Alors, il y a des études très sérieuses qui sont sorties aux États-Unis en disant que, en fait, les technologies de reconnaissance faciale étaient racistes parce que on prend beaucoup de modèles d'hommes ou de femmes blanches. Là, en Chine, en l'occurrence, beaucoup de modèles d'hommes et de femmes chinois, mais peu de modèles d'hommes ou de femmes africains. Et donc, c'est ce que fait en ce moment au Zimbabwe, ce que font plusieurs grands groupes de technologies chinoises, c'est-à-dire qu'ils ont déployé à très grande échelle et de façon assez intéressante pour le gouvernement du Zimbabwe, des technologies de reconnaissance faciale qui permettent un maintien de l'ordre basique, mais ce qui permet aussi bien sûr de contrôler à distance l'opposition et de savoir en permanence où sont les personnalités qui peuvent éventuellement déranger le régime.
Alors vous nous parlez aussi des chalutiers chinois au large du Ghana, c'est un autre volet. Et ce qui est assez incroyable, fascinant, je ne sais que dire exactement, c'est que les Chinois sont vraiment partout et dans tous les domaines, sans être paranoïaque, mais il y a une stratégie chinoise dans tous les aspects de l'activité économique.
Oui, culturelle, on peut le dire aussi, puisque la Chine essaie depuis aussi plusieurs années, à travers ses instituts Confucius, hein, qui sont installés un peu partout sur le globe. Il y en a une quinzaine en France, par exemple. Il y en a un certain nombre, plusieurs dizaines aux États-Unis. Il y en a quelques-uns en Afrique également. C'est aussi une façon de raconter la Chine. Et c'est vrai que Xi Jinping aime bien rappeler que il aime qu'on raconte, il souhaite qu'on raconte correctement l'histoire de la Chine. Donc c'est un outil d'influence, c'est un petit peu chaque pays, chaque grande puissance a essayé de jouer un petit peu sur ces cordes-là. Et là, de la même manière, Pékin a décidé de jouer aussi dans ce registre depuis quelques années.
Il faut aussi lire votre livre pour comprendre pourquoi la Chine s'intéresse en particulier au Kazakhstan pour la route de la soie, et parce que la Chine évidemment s'intéresse aussi aux routes commerciales, aux routes de circulation.
Oui, puisque aujourd'hui, une bonne partie des marchandises qui viennent de Chine arrivent en Europe par train et non plus seulement par bateau.
Ça, c'est intéressant à noter, à souligner. Gilles Lefontaine, merci. Vous avez écrit avec Eric Scholl, Il est midi à Pékin, Le monde à l'heure chinoise. Ça donne à réfléchir. Hein.
Merci beaucoup à vous.
Ce livre est publié chez Fayard. Une semaine d'actualité réalisée évidemment par Vanessa Rovensky. Nous nous retrouvons demain, dimanche, pour le magazine Idée, celui qui interroge, vous le savez, ce qui pense le monde. Et ce sera un des numéros que nous vous proposons de temps à autre, qui met en valeur le patrimoine de la pensée quand celui-ci a une résonance aujourd'hui. Et nous nous tournerons vers le XVIIe siècle pour évoquer un moraliste, La Bruyère, celui qui a écrit, par exemple, que la plupart des hommes emploient la première partie de leur vie à rendre l'autre misérable. La Bruyère, le seul dont six lignes lues au hasard ne déçoivent jamais, disait Jules Renard. Nous serons en compagnie de l'essayiste Jean-Michel Delacomté, qui vient d'écrire un beau livre sur l'auteur des caractères. Donc, à demain, dimanche, 17h10, heure de Paris. Bon week-end, bonne semaine, dans un instant, un nouveau journal sur RFI.